Juliette Rangeval.
Bonjour, il ne faut pas bloquer Milan, c'est l'appel lancé dès dimanche par le maire de la grande ville du nord de l'Italie, le poumon économique du pays, alors que le coronavirus gagne du terrain encore et toujours. Après la Lombardie et la Vénétie, des cas de contamination au Covid-19 sont désormais signalés en Sicile et en Toscane, malgré les zones rouges mises en place autour des foyers d'infection, et Milan vit désormais au ralenti. C'est un reportage de Franceline Beretti.
Gisèle les reçoit dans sa cuisine autour d'un café pendant que la babysitter s'occupe des enfants. Elle a deux filles, Mathilde, 3 ans, et Vittoria, 6 mois. Elle est encore en congé maternité et doit retourner au bureau dans quelques jours. Pour elle, la galère a commencé dimanche après-midi avec l'annulation de l'activité de sa fille aînée.
Elle devait aller à son cours de natation et un peu avant, la piscine nous a appelés pour nous prévenir qu'il était annulé. Et maintenant, toute la semaine, les écoles sont fermées, elles aussi. Et c'est un gros problème d'organisation pour les familles, car on a appris dimanche, la veille, qu'il n'y aurait pas d'école. Heureusement, les grands-parents habitent juste à côté de Milan, donc on va leur demander de garder notre fille aînée une journée ou deux, pendant que la petite sera un peu avec moi, un peu avec la babysitter. Mais c'est clair que cela demande une réorganisation totale du rythme de la famille et de la façon de gérer les enfants.
Pour l'instant, ce sont surtout les mères qui s'organisent. En Italie, cette répartition des rôles est la norme. Elles se retrouvent au parc avec les enfants ou mutualisent une babysitter quand c'est possible. Gisèle a fait le tour de ses amis.
Certaines ont pu prendre des vacances, elles ne vont pas travailler et restent à la maison. Ou celles qui ont les grands-parents laissent les enfants une demi-journée et ils restent avec les mères l'autre demi-journée. Pour une semaine, c'est faisable, mais si la fermeture des écoles devait se prolonger une semaine de plus ou même quelques jours, ça deviendrait un vrai problème.
À part cette logistique qui devient vite un casse-tête, pas de préoccupation particulière dans cette famille. Par contre, à la sortie du supermarché du quartier, c'est autre chose. On croise des gens avec des sacs remplis, avec des masques pour se protéger. Tout le monde affiche un air pressé, personne n'a envie de parler, sauf Daniele. Cet employé du rayon charcuterie est en pleine pause cigarette et il n'en revient pas de la file aux caisses.
Déjà hier, tous les supermarchés ont été pris d'assaut. Ils ont annulé les matchs de football et là, tout le monde a pris peur. C'est la vérité. Dans mon village, à partir d'aujourd'hui, tous les bars doivent fermer à 18h. Je suis inquiet.
Ce vendeur n'est pas le seul à être préoccupé. Depuis les annonces des autorités avant-hier sur la fermeture des lieux publics, la situation est devenue grave aux yeux de beaucoup de gens. Au milieu de la matinée, le rayon frais du magasin est à moitié vide et à 10h30, il n'y a plus d'orange. Laura et Lucia, elles, font leurs courses habituelles. Elles ne comprennent pas cette frénésie.
On est un peu préoccupés, oui. On essaie de garder notre comportement habituel. Alors que là, on voit des gens sortir avec des chariots remplis d'eau, de lait. On ne comprend pas pourquoi.
Et aussi avec du papier hygiénique, des paquets de papier hygiénique à n'en plus finir. Les gens ont décidé de s'enfermer chez eux.
Pour beaucoup de Milanais, la ville et la région ont trop tardé à prendre des mesures adéquates. Ils s'organisent maintenant à leur façon.
C'est un coup très dur pour l'Italie, troisième économie de la zone euro, mais au bord de la récession. L'économie italienne est déjà mal en point, elle pourrait plonger dans le rouge cette année. Alors, face à l'épidémie de coronavirus et à ses répercussions, Rome pourrait demander la clémence de l'Union européenne sur son budget. Il y a aussi les bourses européennes qui s'affolent. On en parle avec Pauline Glaise du service économie. Moins 5,43% hier pour la bourse de Milan. Les actions des entreprises du luxe et de l'industrie qui sont particulièrement touchées. Pauline, comment est-ce qu'on explique ce vent de panique sur les marchés ?
Eh bien, déjà, Juliette, souvent, les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Or, la crainte du virus et les mesures de précaution devraient affecter l'activité, au moins momentanément. Mais attention à ne pas tout mettre sur le dos du coronavirus. Francesco Daveri, professeur d'économie à la Bocconi, encourage à ne pas tirer des conclusions trop rapidement.
À la bourse de Milan, le principal indice atteint encore en ce moment environ 23 000 points. Il en affichait 18 000. début 2019. Et pendant toute cette période, l'économie italienne a eu une croissance presque nulle. La bourse était un peu haute. Et donc, il est possible que beaucoup d'opérateurs aient considéré que c'était l'occasion de vendre. Cela dit, il y a une raison à cet ajustement. Pour le moment, il n'est pas si facile d'appréhender la durée et l'intensité de la crise. Et dans ces cas-là, les investisseurs de ces secteurs ont tendance à s'alléger.
C'est ce qui explique sans doute que dans la foulée, les autres bourses aient suivi la tendance. Hier, le Dow Jones a signé sa pire séance en 2 ans. Le Nikkei à Tokyo a fini ce mardi en chute de 3,3%.
Alors voilà pour la bourse, Pauline. Mais l'effet de souffle se fait déjà sentir sur l'économie réelle.
Oui, alors difficile encore de donner des chiffres précis avant de connaître l'étendue et surtout la durée de l'épidémie. Mais impact, il y aura. À vrai dire, les effets ont commencé à se faire ressentir avant même l'explosion du nombre de cas dans le nord du pays, avec une diminution du nombre de touristes. L'épidémie et les mesures prises accentuent le problème. L'association des hôteliers de Milan fait état de 25% d'annulation pour cette semaine, moins 40% à Venise et plusieurs grands salons professionnels qui devaient commencer cette semaine en Lombardie ont été annulés. La crise sanitaire va en effet surtout peser sur les services. Or, souligne l'économiste Luca Paolazzi, les services, c'était le secteur d'activité qui permettait à l'économie italienne de se maintenir à flot. Et la péninsule, Juliette, n'avait enregistré que 0,2% de croissance l'an dernier.
C'est donc un facteur de risque supplémentaire. Pauline, les foyers épidémiques se situent tous dans le cœur économique de l'Italie.
Et la Vénétie et la Lombardie représentent à elles seules, Juliette, entre un quart et 30% du PIB italien. Mais Francesco Daveri n'est pas alarmiste.
Le nord de l'Italie, c'est la partie du pays qui a un revenu par habitant comparable à celui de l'Allemagne. Un coup porté à cette partie de l'Italie, c'est sans nul doute un coup dur. Mais c'est aussi une partie du pays qui a tous les instruments, les moyens et la motivation pour réagir rapidement à quelque choc que ce soit. Donc, au vu des informations dont nous disposons, pour l'instant, je ne m'attends pas à un effet durable. J'anticipe un premier trimestre négatif. Il est possible aussi qu'il y ait une incidence au deuxième trimestre, mais au cours de la seconde partie de l'année, cette partie du pays devrait retrouver ses capacités et son dynamisme.
Un dynamisme qui ne suffira pas à porter la croissance italienne au nu. Pour 2020, le gouvernement misait sur une hausse de 0,6%. La Commission européenne ne tablait que sur 0,4%. Et ça, Juliette, c'était avant le coronavirus.
Merci Pauline Glaise. La Croatie annonce à son tour le premier cas de coronavirus dans les Balkans. Alors face à une épidémie comme ce virus, face à une catastrophe dans un pays européen, il y a le Centre de coordination de réaction d'urgence de la Commission européenne. Il a coordonné les premières forces européennes déployées dans le cadre du Covid-19. Visite avec Alice de Baptiste de la RTBF.
Situé en plein cœur du quartier européen, le Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'Union fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, 21 personnes se relaient pour surveiller les risques de catastrophes naturelles ou non. Esther El Haddad fait partie de l'équipe depuis 4 ans.
C'est ici le premier contact pour l'Europe. Donc quand il y a une crise, il y a un pays qui est touché par un désastre naturel ou un autre désastre, le point de contact pour l'Europe, c'est ici.
Dans la salle d'opération, le calme règne, les mines sont concentrées, tous les regards sont tournés vers 8 écrans. 4 diffusent les chaînes d'information du monde entier en continu, les autres des outils de surveillance. On peut notamment apercevoir une grande carte de la Chine.
Pendant la crise du coronavirus Covid-19, on a le site du gouvernement chinois qui nous montre les cas par jour. Et aussi, on a par exemple GDAX, Global Disaster Coordination System, qui vraiment vous alerte dès qu'il y a un cyclone, un tremblement de terre.
Si un pays fait appel au mécanisme de protection civile, il doit d'abord dresser une liste de ses besoins urgents.
Il faut que la demande soit assez spécifique. Il faut qu'on ait besoin de 3 modules de purification d'eau. Il faut qu'on ait besoin de 3 équipes satellites de communication. Par exemple, en Mozambique, on en avait envoyer. Donc il faut que la liste soit assez spécifique.
Ensuite, Esther et ses collègues communiquent la liste aux États membres. La Commission européenne ne dispose pas de pompiers, de sauveteurs ou de chiens renifleurs. Elle compte donc sur eux pour fournir le matériel ou les équipes nécessaires. Et chaque pays à sa spécificité.
La Commission européenne, ici, elle incite les États membres à vraiment mettre en place des capacités que l'on pourrait mobiliser plus rapidement et plus efficacement, en fait. Par exemple, la Belgique, vous voyez ici sur la carte qu'elle a un module de water purification, donc purification d'eau, high capacity pumping, c'est-à-dire ce qui est très utile, par exemple, quand il y a des inondations. Ils ont aussi une équipe médicale que l'on peut déployer, une équipe que l'on envoie quand il y a des tremblements de terre, donc en fait des équipes spécialisées en recherche sous les décombres.
Dans le cadre de la crise du coronavirus, la France a été la première à déclencher l'alarme européenne pour le rapatriement de citoyens européens. Balázs Ujvári, porte-parole de la Commission européenne.
Une fois ce qu'on appelle le mécanisme de protection civile est activé, on va être en contact avec tous les États membres pour établir le nombre des citoyens de l'Union européenne qui sont dans la région et qui demande un rapatriement. Dans ce cas-là, on est aussi en mesure de financer les coûts de transport jusqu'à 75%, et donc c'est ce qu'on a fait.
Via ce vol cofinancé par l'Union européenne, 447 citoyens européens ont été rapatriés de la région de Wuhan. Le Centre de coordination de la réaction d'urgence a également facilité la livraison de 12 tonnes de matériel médical. Cette semaine, l'Italie a elle aussi fait appel à l'Union européenne pour affréter 2 vols à destination de la Chine. Esther et les 20 autres membres de l'équipe restent en alerte.
L'Albanie pense encore les plaies du séisme de novembre, mais après le tremblement de terre, la situation a peu évolué. Beaucoup d'habitants sont encore logés dans des tentes et les décombres sont visibles partout. La conférence des donateurs organisée la semaine dernière à Bruxelles a permis de récolter plus d'un milliard d'euros, mais tout reste à faire. Notre correspondant Louis Seyet s'est rendu dans l'une des zones les plus touchées par la catastrophe.
Les sacs de course dans les mains, Astrid monte au deuxième étage d'un immeuble fissuré à plusieurs endroits. Depuis le séisme de fin novembre, cet électricien se rend chaque jour dans son ancien appartement, situé dans le quartier de l'ancien marais de Dourès.
Ils ont mis une croix jaune parce que les escaliers de cet immeuble ont été classés en DC4. DC4, ça veut dire dégâts très graves. Et donc nous, on a obtenu une aide au logement, on est parti vivre ailleurs. Mais mon père, il a 90 ans et lui, il ne veut pas partir d'ici.
3 mois après le tremblement de terre, Dourès porte encore les marques de la catastrophe. Rien que dans la deuxième ville d'Albanie, ce sont plus de 37 000 bâtiments qui ont été endommagés. À bientôt 70 ans, Lule Muka fait partie des 17 000 Albanais qui ont perdu leur logement. Malgré les risques, son fils est monté dans leur ancien appartement afin de récupérer des vêtements et sauver quelques meubles.
Après le séisme, on a été hébergé à l'hôtel pendant 2 mois. Et maintenant, on nous a relogés dans un appartement de location en nous promettant une aide au logement. Mais on n'a toujours rien reçu et l'appartement où on vient d'arriver est vide. On est bien obligé de venir récupérer des affaires ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On n'a pas l'argent pour acheter de nouveaux meubles.
Si Lule et sa famille ont obtenu un nouveau logement, elle s'inquiète de savoir ce que va devenir leur résidence de 12 étages, aujourd'hui inhabitable. Les autorités n'ont encore rien annoncé et Lule s'impatiente.
Ils n'ont rien fait, ils ne nous ont rien dit. On ne sait rien de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont décider? On ne sait pas. On vient ici, on repart et rien de nouveau. C'est vraiment difficile.
Plus d'un milliard d'euros, c'est le montant obtenu par l'Albanie pour se reconstruire. Les banques publiques de développement et de nombreux États de l'Union européenne se sont montrés généreux. Mais alors que la société albanaise souffre de l'omniprésence de la corruption, plusieurs dirigeants ont insisté sur la nécessité que l'argent donné soit bien utilisé. À Tirana, l'ambassadeur de l'Union européenne, Luigi Soreca, se veut rassurant.
On a poussé le gouvernement albanais d'établir un mécanisme transparent. Les États qui veulent donner veulent être aussi sûrs que l'argent qui vient de contribuables est bien dépensé pour les besoins qui sont leurs.
Reconstruction d'écoles ou d'hôpitaux, l'Union européenne devrait notamment aider l'Albanie à se doter enfin d'une véritable agence de protection civile, équipée et formée, capable de gérer les conséquences d'un nouveau séisme. Le pays est en effet situé dans une zone à l'activité sismique élevée et les tremblements de terre sont fréquents. Luigi Soreca.
Surtout, on est intéressé pour établir un système durable de protection civile. Et là, je pense qu'on va s'engager avec certains pays membres qui ont beaucoup d'expérience pour faire en sorte de faire un système de réduction des dégâts qui doit effectivement éviter que ce type de dégâts puisse se reproduire dans le futur.
Les habitants de Fuman sont impatients de tourner la page de cette catastrophe. Dans cette petite ville située à 45 km de la capitale, 24 personnes sont mortes dans l'effondrement de leur immeuble. Aujourd'hui, le centre-ville n'est plus qu'un champ de ruines. Davy, 20 ans, a vu sa ville se vider de ses habitants. Il est toujours sous le choc.
De ceux qui habitaient dans les immeubles, beaucoup sont partis à cause du traumatisme, parce qu'ils ont vu la mort. Mais ils vont revenir quand ce sera reconstruit, je pense. Beaucoup de gens ont été relogés dans des appartements de location à Tirana, à Kamza. Ici à Fuman, il y en a qui sont logés dans les maisons non habitées de ceux qui travaillent en Italie ou en Grèce.
À Fuman aussi, les autorités ont promis de reconstruire. Mais personne ne sait encore exactement quelle forme prendra la nouvelle ville. Près de la porte d'un immeuble défoncé, Davy montre une croix jaune.
Cet immeuble, ils vont le détruire, en tout cas, c'est ce qui se dit. Et Inch'Allah, ils vont faire quelque chose de beau de Fuman, quelque chose qu'on n'ait jamais vu, parce que nous, on est abandonnés avec nos traumatismes.
Grâce aux milliards d'euros récoltés, les autorités devraient pouvoir démarrer les travaux dans les prochaines semaines. 25 zones ont été retenues pour la construction de nouveaux quartiers résidentiels afin de loger les 17 000 personnes laissées sans abri par la catastrophe.
Il est le caillou dans la chaussure du pouvoir polonais, l'homme qui gêne la marche du parti PiS, droit et justice. Depuis 3 mois, Tomasz Grodzki est le président du Sénat. La chambre haute, remportée par l'opposition libérale lors des législatives de l'automne dernier, à un siège près, une majorité fragile, mais qui suffit à Tomasz Grodzki pour ralentir le rouleau compresseur législatif mené par le PiS à la Diète, la chambre basse. Ce médecin de 61 ans est depuis devenu l'homme à abattre et tous les moyens sont bons, y compris des campagnes de diffamation, Thomas Giraudot.
Cela dure depuis Noël dernier. Des témoignages sortent dans la presse pro-gouvernementale tentant d'accabler le maréchal du Sénat. Chirurgien thoracique de profession depuis 36 ans, Tomasz Grodzki est accusé d'avoir exigé des pots de vin de certains de ses patients, en échange de quoi il les opérait et leur sauvait la vie. Mais pour l'instant, tous les témoignages manquent de preuves. Une enquête a été lancée après la plainte déposée par un conseiller municipal du parti au pouvoir, le PiS, sur la base d'un témoin qui est revenu sur ses propos depuis. Ensuite, toutes les accusations, la plupart anonymes, ont été relayées par des médias pro-gouvernementaux. La télévision publique et la radio locale de Szczecin, la grande ville portuaire où exerçait Tomasz Grodzki. Enfin, un ancien patient du président du Sénat a déclaré avoir reçu de l'argent pour mentir et témoigner contre lui. Grodzki nie toutes ces accusations, a porté plainte pour diffamation et accuse le parti au pouvoir de vouloir le salir avec des méthodes quasi bolcheviques selon lui. D'abord parce qu'il a refusé le poste de ministre de la Santé au sein du nouveau gouvernement, mais surtout parce qu'il gêne profondément droit et justice. Le président du Sénat est l'homme politique le plus puissant de l'opposition. Il dénonce les nouvelles attaques contre l'indépendance de la justice, parlant de nouvelles étapes vers un État autoritaire. Il a même fait venir à Varsovie des experts de la commission de Venise du Conseil de l'Europe. Leur rapport, au vitriol sur la loi sanctionnant les juges critiques du pouvoir, promulguée au début du mois, a poussé Bruxelles à demander le retrait du texte. Tomasz Grodzki est donc un gros grain de sable dans l'engrenage bien huilé du parti au pouvoir. Le PiS a perdu le Sénat et ne peut plus adopter aussi facilement des lois comme il le faisait depuis 4 ans.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission sur les plateformes de téléchargement et vous pouvez également nous laisser des commentaires ou des étoiles. À bientôt.